Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous. Hein. Rugby et foot, naturellement, vont être encore donc, à l'honneur au cours de cette émission du lundi 25 septembre, première émission donc, sous l'automne. On va saluer, ils ne sont pas venus très loin, nos représentants du PUC aujourd'hui, parce qu'on a décidé effectivement d'inviter à tour de rôle tous les clubs parisiens durant cette Coupe du Monde de rugby. Bonsoir donc à Jérôme Bousquet, le président du PUC. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Philippe.
Oui, depuis combien de temps, président du PUC?
15 ans.
15 ans
de la section rugby, oui.
Très bien. Comment vous vivez cette Coupe du Monde en tant que président?
On le vit très bien. Écoutez, ouais. Je pense que c'est un joli message pour tout le monde du rugby. On sent déjà une ferveur autour de tout ça. On a eu l'occasion, nous aussi, de participer à des animations au village du rugby Place de la Concorde.
Oui. On y était. Hein.
On a vu beaucoup d'enfants. On a pas mal d'enfants aussi qui nous demandent des renseignements, des parents qui sont derrière. Donc, écoutez, pour le moment, alors il est difficile aujourd'hui, au bout de 3 semaines, de savoir si vraiment l'impact va être important. Mais déjà, on sent que ça frémit.
Et puis fatalement, ça va dépendre un peu des performances. Hein.
Bah,
si l'équipe de France s'arrête en quart, ça ne sera pas pareil que si elle est championne du monde, fatalement. Très bien, on découvrira un peu mieux ce club mythique du PUC au cours de cette émission. Et puis, vous avez aussi Elio Vellani qui est avec nous, qui est directeur sportif du club.
Bonsoir
Elio, depuis combien de temps?
Directeur sportif depuis 3 ans, et puis dans le rugby, dans les clubs amateurs, depuis une dizaine d'années, joueur d'accord. avant ça,
d'accord.
une vraie ouais. passion.
Pourquoi le rugby?
Pourquoi le rugby?
Pourquoi étant jeune
ma famille déjà, oui. dans un premier temps, mon père était joueur de rugby, mon grand-père était joueur de rugby, donc forcément on y arrive à un moment naturellement, et puis en général quand on foule un terrain de rugby, on ne repart pas après.
Bon, on va saluer notre ami Julien Combes, qui habituellement est là. Bon, il est en déplacement cette semaine avec le Stade Français. Mais je salue aussi mon acolyte, mon ami François Artigas. Bonsoir François, ça va?
Bonsoir, très bien.
Forme.
Très bien, oui, en
belle
forme.
Semaine,
bon,
cette, tu seras en vacances la semaine prochaine, je
absolument,
crois.
Absolument, voilà. Je ne serai pas là.
Oui, tu profiteras que l'équipe de France ne joue pas pour
absolument.
S'accorder quelques jours de repos, parce que François, il regarde match en match. Alors, voilà. Alors, donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, François, les audiences sont toujours aussi bonnes sur cette Coupe du Monde.
Des audiences, ouais. Voilà, si on peut me permettre l'expression ouais. de malade mental, parce
très
que
bien,
c'est incroyable.
Oui, oui.
À chaque fois qu'une chaîne diffuse un match, même sans l'équipe de France, il réalise la meilleure audience de la journée.
Même les petites équipes,
même
comme le Portugal
équipes,
ou le Chili, il y a de
absolument.
L'audience.
Absolument. Et bon, M6, qui a eu un été très très difficile, avec un mois de juillet qui était même pire que celui de 1991, qui était un des plus bas de l'histoire de la chaîne de Nicolas Tavernos, réalise de très très bonnes audiences, avec des moyennes de 2,5 millions, par exemple Irlande-Roumanie, qui n'était pas le match du siècle, diffusé à 15h30 en plus qui n'est pas la meilleure horaire. Pays de Galles-Portugal, à peu près la même audience, 2,44 millions, est diffusé à 17h45. Donc pour M6, c'est une bouffée d'air frais après une période très difficile pendant l'été. Et sinon, alors, l'équipe de France, effectivement, réalise des très belles audiences. Alors, France 2 a réalisé sa meilleure audience de l'année avec France-Namibie, 10,73 millions, et ce qui représente quand même 47,6% de part de marché, ce qui veut dire que pratiquement un téléspectateur sur deux regardait du rugby ce soir-là. Donc, c'est extraordinaire. Afrique du Sud, Irlande sur TF1 dimanche, près de 7 millions. Et là encore, plus de 35% de parts d'audience, et qui était la première audience du samedi. Rugby bat toutes les autres émissions, des émissions de Flux, les séries, les films, ça écrase tout sur son passage. Alors, en contrepartie, c'est sûr que la compétition, ils ne l'ont pas achetée pour des clopinettes. C'est vrai que TF1 a été obligé d'ouvrir le cordon de sa bourse pour débourser une somme qu'on ne connaît pas, ça devrait rester confidentiel. Il a réussi à en revendre 18 matchs à M6 et 10 matchs, dont un de l'équipe de France, à France 2, qui ne peuvent que s'en féliciter. Alors maintenant, après, pour rentabiliser la chose, il faudrait que la France arrive en finale. Parce que les 30 minutes, je dis bêtises, les 30 secondes d'audience, c'est 350 000 euros. Si la France est en finale, si elle n'est pas en finale, ça tombe à 190 000. Donc c'est sûr que pour rentabiliser leur investissement, ils sont obligés donc que la France arrive au moins en demi-finale.
Jérôme, le président que vous êtes doit être content quand même que votre sport numéro un, votre sport favori, soit autant exposé. Souvent, le rugby dit « Ouais, on parle que de foot ».
Voilà. Non, mais le rugby, on sait aujourd'hui, c'est le sport numéro 2 en France, mais le 10e en nombre de licenciés. Donc, ça veut dire qu'on a encore quand même beaucoup de boulot à faire pour que les licenciés augmentent et pour rattraper certains sports. Ça vient aussi du fait que nos structures, nos infrastructures sont difficiles à avoir. Un terrain de rugby,
on va en parler justement.
Ça se met pas au milieu justement de la place de la Concorde ou dans des conditions spéciales. Et donc oui, on est dans une ambiance très favorable. L'audience, effectivement, comme vient de le rappeler, sont très bonnes. Tous les clubs parisiens aujourd'hui, ont des afflux d'enfants, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, on attend effectivement des beaux résultats de notre équipe de France. C'est ce qui va définir effectivement dans les prochaines semaines. Si les parents viennent inscrire leurs enfants définitivement ou pas.
Alors vous parliez justement de la Concorde, on y était il y a 15 jours, on avait passé les interviews la semaine dernière. Il y avait déjà une belle attente, il y avait beaucoup de succès, beaucoup d'enthousiasme.
Nous on a déjà
des
fait
des curieux qui sont venus.
On a fait une opération une journée sur le village. On va en faire une deuxième. L'idée c'est de faire découvrir le rugby grâce à Elio et tous les éducateurs du club qui sont là ce jour-là, de faire découvrir le rugby aux enfants, aux parents qui viennent dans ce village, qui est une très belle réussite d'ailleurs aussi pour la fan zone et pour la diffusion des matchs. Donc c'est une belle réussite.
Oui, parce que ceux qui n'ont pas de billets, ils viennent voir là.
Exactement.
Ils viennent voir le match là. Elio, justement, l'image qu'ont les parents de rugby, parce qu'on a un peu peur, des fois on en parlait avec François, ses impacts, ses contacts, on a un peu peur des fois d'emmener son fils sur le rugby.
C'est vrai que le rugby c'est un sport d'affrontement et quelque part il subit cette image là et notamment l'image qu'on a à la télé. On peut reparler du choc à la tête de Dupont si vous voulez je me mets à la place d'un parent qui veut inscrire son enfant au rugby, forcément ça peut être un peu impressionnant. Après c'est tout le travail que nous les professionnels entre guillemets de l'activité, mais du versant amateur, on essaye de casser cette image de sport violent. Aujourd'hui, le rugby est un sport de combat collectif, mais avant tout un sport d'évitement. Et c'est cette image-là qu'on essaye de diffuser à la Concorde, par exemple, ou sur le terrain éphémère qu'ils ont mis en place. Il y a zéro contact qui sont pratiqués. On pratique uniquement des formes de rugby adaptées, type le rugby à 5 touchés, par exemple. Et aujourd'hui, si on parle de contact, de volume de contact pour un enfant sur une semaine d'entraînement, ça n'excède pas 15 minutes en fait sur sa semaine d'entraînement, pour en moyenne entre 2 heures et 3 heures d'entraînement semaine. Le rugby s'apprend par l'évitement.
Les parents dans l'ensemble,
C'est toujours passer le pas, venir voir, c'est en ça qu'on espère que la Coupe du Monde va nous donner de la visibilité et que justement des parents, des personnes qui sont loin de ce sport aujourd'hui, qui ont une image un peu tronquée passent le pas, viennent voir les clubs amateurs et viennent voir comment on travaille et comment en fait on apprend le rugby avant de regarder l'équipe de France et les ouais. chocs.
Parce que je me rappelle qu'en 2007, il y a eu déjà donc un afflux de pratiquants et pratiquantes. Bon, après, c'était un peu retombé, hein, mais il y avait même des clubs qui avaient été obligés de refuser d'éventuels futurs joueurs et joueuses.
C'est vrai.
Ouais.
Bah, on sait pas. Oui, effectivement, il y avait eu un afflux et nous, on préfère dire qu'on va trouver plus d'éducateurs pour ouvrir des créneaux plutôt que de refuser des pratiquants. Jérôme vous l'a dit juste avant, 10e sport en termes de licenciés. Oui. Il faut qu'on progresse, il faut que le rugby progresse, pas dans une compétition malsaine entre les sports, mais parce que c'est un sport qui mérite de grandir avec de belles valeurs et un événement comme celui-là doit profiter à notre pratique.
Bon, François, c'est un sport bien français, le rugby, quand même. Hein. Dans une partie de la France,
oui,
c'est le
sud-ouest.
Un,
c'est ouais. paradoxal, parce que ouais. c'est le sud-ouest, oui. alors que ça s'est développé en Angleterre, oui. plutôt dans le nord. Ouais. Mais bon, c'est des Anglais qui sont venus à La Rochelle, je crois, au début, mm-hmm. qui sont descendus après jusque dans les Landes, dans le Pays Basque. Et là, ils ont développé donc, ce sport, comment on dit déjà, sport de gentleman pratiqué par des voyous, voilà, sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Voilà, c'est le terme exact, c'était l'inverse. Voilà. Je plaisantais.
Ouais, ouais.
Mais c'est sûr que maintenant, il se développe dans d'autres villes. Hein. On le voyait rarement en Bretagne et maintenant, il y a des équipes.
Ouais, Vannes,
par exemple, il y a des équipes donc, bretonnes
ouais.
qui sont aux portes. Ben, Vannes est aux portes mm-hmm. du top 14. Peut-être mm-hmm. pas cette saison, mais ouais. une saison prochaine. Au Yonax, il y a quelques années, on n'en parlait pas beaucoup. Et puis, bon, ils sont montés en top 14, ils sont redescendus. Enfin, ils font un peu l'ascenseur, mais ils font quand même partie des 15 meilleures équipes françaises. Mm-hmm. Donc, ça se développe dans des régions où il était peu pratiqué à un très haut niveau. Bon, pratiqué certainement au niveau amateur, mais pas à un très haut niveau. Maintenant, ça se développe. Et ce qui est un peu inquiétant, c'est les budgets. Quand on voit que le budget, par exemple, du Stade toulousain est de 48 millions, le budget du Stade français est de 40 millions, on se demande où ça va s'arrêter. Parce que 48 millions, c'est le budget d'un club de Ligue 1 de milieu de tableau. Donc, alors qu'avant, c'était la différence était moins probante. Et un club de top 14 avait un budget qui était comparable à un club de Ligue 2. Et là, on passe à un niveau supérieur. Et puis, alors, qui parle d'argent dans un sport parle quelquefois aussi de dérives possibles. Donc, ouais. c'est un peu avec les agents, etc. C'est un peu le côté sombre, un peu inquiétant de l'affaire.
C'est notre époque est comme ça maintenant. Mmh. Hein, ouais. On en reparlera tout à l'heure, hein, notamment. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez la vocation d'être un club formateur?
Bah, ou alors, on n'a pas la vocation, on est un club ouais. formateur
ou alors,
depuis de nombreuses années.
Résultats,
et on est un club formateur oui. Depuis, oui. Depuis la nuit des temps mmh. et on se revendique comme tel. Ouais. Mmh. On a formé de oui. nombreux joueurs qui ont joué soit dans des clubs de top 14, ouais. soit même en équipe de France.
Dites des noms, certains noms.
Paul Gabriac, par exemple, oui. qui joue encore au Stade français, ouais. est un joueur qui est issu de notre formation. Après, on a des joueurs qui sont passés chez nous, comme Jonathan Danty, oui. Qui joue encore.
Ah oui, Danty. Mmh.
Comment dirais-je ? Et puis, y en a bien d'autres qui jouent encore. En top 14. Donc oui, on est un club formateur. Oui.
Yachvili, je crois, en préparant l'émission.
Oui, Yachvili aussi. Dimitri, dans les années 2000, a joué
Moscato.
Alors Moscato est venu entraîner.
Voilà, d'accord.
Moscato est venu entraîner.
J'ai lu qu'ils étaient passés Herrero.
Oui, les années 90, ah oui entraîneur pendant plusieurs années, Daniel, oui, bien connu. Et les années où on était groupe B, on est monté en groupe A, puisque à l'époque, c'était pas du professionnalisme, c'était encore de l'amateurisme avec des groupes. Et donc, oui, Daniel Herrero, grand ami de plusieurs générations de pucistes.
Personnage intéressant. Hein. Oui. Quand on l'a rencontré, on se régale pour les interviews de Daniel Herrero. Bon, on reparlera de votre club tout à l'heure.
Avec plaisir.
La Coupe du Monde, donc naturellement, nous y sommes en plein dedans. Vous êtes optimiste, malgré ce qui s'est passé avec Dupont?
Alors, je laisse la parole à Elio sur le plan sportif.
Elio,
vas-y.
Oui, on est optimiste, on a envie de l'être.
Est-ce qu'il va jouer?
Oui.
Bon, vous n'êtes pas tout bif, je sais, mais voilà, dans le rugby, est-ce que quelqu'un qui s'arrive
C'est toujours difficile à dire. Tous les corps évoluent. Moi, je pense qu'effectivement, il jouera. J'ai envie qu'il joue, mais pas au détriment de sa santé dans tous les cas. Donc, et puis, s'il est à 100% de ses capacités aussi, là est toute la question. Donc oui, on est optimiste et on a envie de voir cette équipe de France tout en haut, on a envie de célébrer ça. On a l'impression que tous les facteurs sont quand même réunis pour aller chercher cette Coupe du Monde. Donc voilà, puis il faut que ça le fasse, quoi. C'est en France, ça ferait plaisir.
Alors on va revenir sur les matchs de cette semaine, hein. France-Namibie, 96-0, il n'y a pas eu de match naturellement, hein. C'est le record de l'équipe de France au niveau points, mais l'équipe de France elle est restée sérieuse, concentrée jusqu'au bout. Il n'y a pas eu les mêmes erreurs que face à l'Uruguay qui a été battu par l'Italie 38-17.
Ben ouais, un gros match de la France face à la Namibie, 14 essais, et en fait, je pense que vous l'avez dit, ils sont restés sérieux, oui. C'était vraiment
un
gala de répétition, ouais. En fait, je pense que il y avait besoin de prendre des repères collectifs pour la suite de la compétition, pour un match face à l'Italie qu'il faut pas enterrer tout de suite. Ça va être un gros match de rugby, et puis des phases finales derrière qui se dessinent de toute façon, hein, avec cette victoire sur la Nouvelle-Zélande. Donc il va falloir, et c'est ce qu'ils ont fait, préparer le groupe à ça et prendre des repères collectifs avec une opposition réellement moins forte face à la Namibie, mais ça reste un match de rugby où il faut faire les choses dans le bon sens et mettre les bons ingrédients pour avoir la bonne recette. Donc
l'équipe de France, elle a 13 points pour l'instant, elle est en tête. L'Italie, deuxième, 10 points. Troisième, la Nouvelle-Zélande, 5 points, mais je crois qu'il y a deux matchs à jouer pour les Néo-Zélandais. Et quatrième, l'Uruguay, 0 points. Cinquième, la Namibie, 0. François, ça a été facile de rester devant son poste de télé. Julie.
Oui, bon, maintenant...
Ils ont fait quand même le job, les Français.
Oui, tout à fait.
14 essais, bon, ils sont restés sérieux.
Ils ont fait le job,
Oui, il y a eu Dupont.
Voilà, le coup de froid, c'était malheureusement la sortie de Dupont. On pensait que c'était un peu moins grave, parce que bon, il se touchait un peu la pommette, mais c'est quelqu'un de tellement courageux, tellement extraordinaire face à la douleur, qu'on peut comprendre qu'il avait quelque chose de malheureusement beaucoup plus... grave. Alors maintenant, est-ce qu'il va jouer, c'est pas, faudra peut-être pas mettre sa santé en jeu, parce que le problème, c'est que un nouveau choc, même sans parler de la mâchoire, parce qu'il va essayer de la protéger, mais sur une autre partie du corps, ça peut entraîner une commotion, peut entraîner de gros dégâts. Donc maintenant, moi je suis pas médecin, je sais plus pas. Et...
Les médecins qu'on a entendus en général disent que en temps normal, on ne peut pas jouer. Hein. Je crois qu'on a un mois et demi d'arrêt après une opération comme ça. Voilà. Après, bon, on fait des miracles des fois.
Après, il va être difficile, surtout pour lui, de revenir en arrière et de dire qu'il ne voudra pas jouer.
Hein. Oui,
lui,
non, mais c'est sûr. C'est
lui,
sûr.
Il voudra forcément jouer.
Non, fatalement,
est-ce que les médecins vont être assez forts pour lui faire comprendre si vraiment il y a un risque qu'il ne faut pas qu'il le fasse? Voilà, c'est l'enjeu de ces prochains jours et de ces prochaines semaines. Hein.
Dans le groupe B, ça a peut-être été le match le plus fort de ce mondial, hein, sur le plan intensité. On l'attendait beaucoup. François a eu l'occasion d'être à ce match. Victoire de l'Irlande devant l'Afrique du Sud 13-8. Le lendemain, donc, l'Écosse battait le Tonga 45-17. Donc premier Irlande 14 points, deuxième Afrique du Sud 10 points, troisième Écosse 5 points, quatrième Tonga 0, cinquième Roumanie 0. Il y a encore une petite part de chance pour les Écossais.
L'Écosse bat l'Irlande avec un point de bonus, que ce soit le bonus offensif ou s'il empêche l'Irlande dans le bonus défensif, c'est encore jouable, hein. Bon, disons, c'est pas du 50-50, hein, c'est du 75-25 pour l'Écosse, mais attention, hein, ils ont prouvé quand même de belles choses hier, donc bon, c'était un peu brouillon à un moment,
gars, hein,
moi je serais à la place des Irlandais, je me méfierais quand même. Parce que l'Écosse, c'est une équipe, on la connaît, c'est une équipe qui est jamais battue et qui peut créer de grosses surprises. Donc suspense.
Jérôme, c'était le match du mondial pour l'instant au niveau de l'intensité, Irlande, Afrique du Sud.
Alors, pour être très transparent avec vous, je ne l'ai pas regardé.
Oh, c'est pas bien.
Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que le PUC, nous jouions samedi soir en nocturne contre Orléans. Et donc,
et on
du coup,
programme des matchs le soir de match.
Mais on avait programmé depuis fort longtemps de jouer contre Orléans ce soir-là.
Il y a des replays après.
En revanche, il y a des replays. Ouais. Et Elio, lui, n'était pas au match. Il était au Stade de France. Donc, il peut vous en parler mieux que moi.
Aussi au Stade de France, comme François.
Au Stade de France, déjà, énorme ambiance des Irlandais qui étaient présents en masse au Stade de France. Il faut souligner ça. Et ensuite, oui, je pense qu'en termes d'intensité, d'exigence, de, et même au-delà de ça, en fait, de gestion stratégique de match, c'était un très beau match de rugby pour tout le monde, expert et non expert de la pratique. C'était vraiment impressionnant de voir un tel niveau d'intensité, alors pour le coup dans les contacts, mais aussi d'un point de vue, comme je disais, stratégique sur l'utilisation du jeu au pied, sur l'importance de la conquête.
Pour les équipes, bon, ce qui fait la différence, c'est la défaillance du buteur sud-africain, quoi.
Et pourtant, les Irlandais commencent mal avec 4 touches perdues dès le début du match. L'Afrique du Sud, qui est la meilleure équipe sur la touche depuis le début. Donc voilà, les Irlandais ils se sont accrochés pendant tout ce match pour l'emporter. Et puis bien sûr la défaillance du buteur sud-africain qui coûte des points. Je crois qu'il y a 9 points qui sont laissés.
Oui, 8 points.
Enfin,
8
c'était.
Il y a 2
points. Je prendrais quand même sa défense parce que c'était quand même de plus de 50 mètres. Donc pratiquement face au poteau, mais quand même, je crois que. C'était quand même, il aurait peut-être fallu qu'il fasse une pénale touche plus tôt. Mais bon, après, on peut toujours en discuter. Mais maintenant, je me demande si pour l'Irlande, ça ne va pas être une victoire à la Pyrrhus. Parce qu'ils vont rencontrer, si tout va bien, en quart de finale, ils vont rencontrer les All Blacks.
Oui.
Et l'Afrique du Sud va rencontrer la France. Mais ce n'est pas la France d'avant Coupe du Monde avec Ntamack et avec Dupont. C'est une France quand même qui sera légèrement beaucoup moins forte. Donc. On peut se poser des questions. Alors, est-ce qu'ils ont été au bout de l'intensité? Bon, je crois que oui, mais...
Oui. Hémisphère sud contre hémisphère nord. Ça va être deux sacrés chocs, quand même.
Ça va être... Et on se demande comment ces 4 équipes, on peut se retrouver en quart de finale. En mesure où c'est pratiquement les 4 meilleures équipes au monde. Si on ajoute peut-être le Pays de Galles et peut-être aussi les Fidji. Mais bon, après, c'est vrai qu'ils n'avaient pas le même classement quand il y a eu le tirage au sort de cette Coupe du Monde. Donc, ceci expliquant cela.
Oui. En tout cas, c'est disproportionné, les deux tableaux.
C'est complètement disproportionné sur la deuxième partie du tableau. Les choses sont beaucoup plus ouvertes, en plus avec une Australie qui est a priori moins forte que sur les éditions précédentes. Et du coup, on avait aussi ces dernières semaines enterré l'Angleterre, mais l'Angleterre va être là. Donc, une deuxième partie de tableau où il peut y avoir aussi de belles surprises.
C'est vrai qu'on s'attendait à un match beaucoup plus équilibré hier entre le Pays de Galles et l'Australie. Elle est arrivée 46. Bon, ça confirme un petit peu la prestation des Australiens qu'on avait largement battu fin août en match de préparation. Dans le même temps, Géorgie-Portugal, 18 partout. C'est la bonne surprise, le Portugal.
Clairement, ils se sont arrachés.
Ils ont raté le match. Ils ont raté la victoire.
Ah oui, clairement, la Géorgie revient à la toute fin. Ils tenaient le match. Peut-être un petit manque d'expérience à la fin et une euphorie collective de la part du Portugal. Mais malgré tout... il fallait le faire. La Géorgie, c'est une nation de rugby avec des joueurs très rugueux et ils se sont opposés avec leur force.
Donc, premier 14 points, donc le Pays de Galles pratiquement qualifié. Deuxième Fidji, 6 points. Troisième Australie, 6 points. Donc, pour l'Australie, c'est cuit pratiquement. Quatrième Portugal, 2 points. Et cinquième Géorgie, 2 points. Ils sont exactement à égalité au goal average. Ça veut dire, François, qu'on risque de retrouver les Fidji en quart de finale.
Ben, ce serait mérité, je trouve, pour leur match contre le Pays de Galles, qui en principe, ils auraient dû l'emporter. Leur victoire contre l'Australie, s'ils étaient un peu meilleurs en touche, je crois que ça aurait été un écart quand même un peu plus large. Je pense qu'ils méritent une place en quart de finale, qu'ils ont pratiquement acquis maintenant. Parce qu'il faudrait vraiment un miracle pour l'Australie, que les Fidji ne gagnent pas, je crois, 5 points sur leurs 2 derniers matchs pour que l'Australie passe. Mais bon.
Oui, les Fidji, c'est le rugby à 7, et puis c'est aussi un quart de finale, probable.
C'est un pays, c'est une des équipes
qui nous ont battu il y a quelques années.
Qui progresse bien, qui a un jeu assez intéressant et sympa à voir. Donc, non, c'est normal. Oui,
ils peuvent titiller,
je suis d'accord.
Les Anglais. Ils peuvent les.
Non, ils peuvent titiller les Anglais. Oui, ouais. Hein, ils peuvent titiller les Anglais. Mais bon, je pense que sur un match avec un enjeu comme ça, la rigueur anglaise est, sera, parce que les Fidji, ça reste des équipes un peu tout fou, donc mais les Anglais avec leur rigueur et tout ça, je veux dire, ils ont voilà, ils seront là, hein.
Voilà, bah justement, les Anglais qui ont battu l'Angleterre, qui a battu le Chili 71 à 0. L'Argentine a battu les Samoa 19 à 10. Donc l'Angleterre, 14 points première. Deuxième Samoa, 5 points. Troisième Japon, 5 points. Quatrième Argentine, 4 points. Cinquième Chili, 0 points. C'est serré, François, dans ce groupe. Hein.
Oui, c'est vrai.
Pour la deuxième place.
On attendait peut-être l'Argentine un peu plus forte.
Oui, oui,
mais bon,
oui.
Qui avait fait une très bonne Coupe du Monde en France et qui nous a posé énormément de problèmes. Mais bon, voilà, c'est le rugby qui évolue. Tu parlais tout à l'heure du Portugal, mais ils ont des joueurs qui jouent en France. Hein,
bien sûr. Martin,
notamment, qui jouait à Dax, qui était le meilleur marqueur d'essai en national. Donc, c'est des joueurs qui progressent. Et comme d'autres pays, comme les Uruguayens aussi, qui jouent en France.
Mais c'est très bien aussi qu'il y ait d'autres nations qui émergent et qui continuent de progresser. Franchement, c'est ce qui va permettre au rugby de, dans son ensemble.
C'est un petit peu le problème de votre sport, parce que c'est vrai que la Coupe du Monde, les premiers matchs, allez, sur 80% des matchs, il n'y a pas de surprise, quoi. Il y a des grosses, il y a des gros scores, quoi.
Et les grosses écuries sont là, et derrière, les autres sont un peu derrière. Mais justement, il faut qu'ils soient aidés, il faut que les joueurs, effectivement, certains joueurs jouent en France, mais dans des pays où les championnats sont plus élevés, qui permettent aussi à leur équipe nationale d'avoir des joueurs qui progressent et qui sont un peu plus forts, et qui permettent aussi à ces équipes nationales de monter en puissance. C'est, c'est bien pour tout le monde. Hein.
Oui, bien sûr. Elio, vous, l'éducateur que vous êtes, le directeur sportif, vous trouvez que c'est un bon cru, ce mondial 2023 au niveau du jeu ?
Ouais, honnêtement, je suis plutôt ravi. Beaucoup de points, des belles prestations, des équipes qui vendent cher leur peau, malgré des écarts de points qui sont pas toujours révélateurs de ce qui s'est passé. Personnellement, moi, j'ai adoré le match contre l'Uruguay. J'ai trouvé que l'Uruguay
contre la France, quoi, le match
contre la France, exactement.
C'est vrai que ça explique aussi qu'on
ils ont vendu chèrement leur peau. Ils ont fait un gros match de rugby. On dit que la France a mal joué. Peut-être que c'est aussi l'Uruguay qui a fait déjouer. Voilà, je trouve que le Portugal contre la Géorgie, c'était un très beau match. Et voilà, ils se sont battus. Et le fait de voir des équipes qui arrivent à se mettre au niveau comme ça, alors qu'on ne met pas une pièce sur eux au début, c'est intéressant et ça fait grandir notre sport, comme vous le disiez.
Vous faites des écrans géants dans vos... Non, vous ne faites pas des soirées communes où vous réunissez les clubs, non ?
On emmène tout le monde à la Concorde.
Ah, oui, c'est pas plus mal, vous avez raison. Allez, la pause musicale, partenaire particulier à Indochine, et ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet, on va s'intéresser un peu plus près à votre club.
pas parmi eux que je trouverai. Je dois trouver de nouveaux horizons, mais je finis parfois par tourner en rond. Je cherche et je trouverai cette vie qui me manque. Je cherche et je trouverai.
Et puis naturellement, cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, hein, très rapidement, hein, comme toutes celles donc, depuis le début de cette saison. François, il y a toujours des problèmes aussi pour les droits télé. Hein, ça, c'est même le rugby maintenant. Hein.
C'est-à-dire que depuis que le rugby a une audience mondiale, avec des scores, on l'a dit tout à l'heure, disons d'audience qui sont exceptionnelles, c'est sûr que ceux qui n'ont pas payé les droits, les non-détenteurs de droits, les chaînes, et certains se posent la question pourquoi il n'y a pas plus d'images de la Coupe du Monde sur l'équipe, la chaîne L'Équipe, qui est la chaîne de sport gratuite en France. Bah, tout simplement parce que l'équipe n'a pas eu les moyens d'acheter les droits donc, de cette Coupe du Monde, et ils sont obligés d'être un peu en retrait. Et par exemple, un exemple, une anecdote, toutes les chaînes qui n'ont pas les droits sont obligées, lorsqu'ils viennent au Stade de France, les caméramans, de laisser leur matériel 30 minutes avant, donc à l'entrée du stade, avec interdiction bien sûr de filmer la moindre image, même des images de tribune, moindre image, et s'ils le diffusent, ils s'exposent à avoir des procès avec des sommes extraordinaires. Alors, ils ont le droit à, on appelle ça le droit à l'information, c'est-à-dire 1 minute 30 par heure d'émission. Mais ils ne peuvent pas faire une émission de rugby avec. Ouais, c'est-à-dire que quelqu'un, petit malin, dirait ben, on va prendre les 1 minute 30 et puis on va faire une émission. Non, non. C'est uniquement pour les émissions généralistes. C'est-à-dire que les émissions généralistes de l'équipe qui parlent de foot, d'athlétisme, tout ça, peuvent utiliser des images. BFM TV aussi peut les utiliser, mais dans le cadre de les informations générales du journal. Donc c'est très, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Ils sont obligés de signer des chartes, etc. Par exemple, pour les photographes, il est interdit d'aller sur la pelouse avec un parapluie. Bon, même s'il pleut, ils doivent se débrouiller. Enfin, c'est une anecdote, c'est une parmi d'autres. Donc les journalistes n'ont pas le droit, nous, de filmer, par exemple, avec un petit caméscope ou un téléphone portable. Donc les images sont verrouillées par la Coupe du Monde et par l'organisateur, le World Rugby, uniquement pour les détenteurs de droits, c'est-à-dire TF1, qui avait sous-licencié à M6 et à France Télévisions. Et c'est pour ça que Rencontre à 15 peut utiliser des images des matchs de rugby, même ceux qui ne diffusent pas, que France Télévisions ne diffuse pas.
Ah oui. Bah oui, c'est pratiquement comme tous les grands sports maintenant, hein, et toutes les grandes compétitions. Le PUC, vous êtes combien de sections sportives au PUC ?
Alors, le PUC,
oui.
Vous avez combien de temps là ? On a 2 heures ? Parce que je suis intarissable sur
le
sujet.
On a 1h30, mais on a un point foot après.
Alors, le PUC, dans sa globalité, le PUC Omnisport, c'est 42 sections aujourd'hui. C'est à peu près environ 8000 licenciés sur la totalité du club. Ce qui en fait aujourd'hui le plus gros club
plus
de
que
Paris.
Le Stade Français qu'on avait reçu donc début juillet, hein.
Ah oui, ouais. On est,
et plus
on
que
est
le Racing
devant.
Bon, c'est après,
alors après je parle des clubs Paris
intramuros, oui, parce que le Racing c'est la banlieue 92,
on est un peu en dehors de Paris, mais voilà, c'est 42 sections, j'ai pas en tête le nombre d'éducateurs, enfin voilà, c'est une organisation aujourd'hui, le PUC Omnisport, avec des salariés à l'administration, c'est une grosse machine, hein, c'est vraiment une grosse entreprise, hein, c'est plus de... comment dirais-je,
il y a des permanents, donc il y a des...
Oui, il y a des permanents, sur le plan administratif, sur le plan éducateur aussi, aujourd'hui, la plus grosse section, si on parle de nombre de licenciés, c'est la section foot, hein, qui dépasse les 1000, qui est à peu près aux alentours de 1200 licenciés, qui est sur 3 sites différents dans Paris, puisque vous savez que les installations parisiennes sont tellement difficiles. Non seulement on les loue, mais en plus il faut avoir les créneaux.
Oui, ça, je sais que tous les clubs les louent. Ouais.
Et donc, le foot, et puis après, on a des sections comme l'athlé, le tennis, qui est une belle section. Oui. Le volet, bien sûr, puisque ça joue en élite, à Charpie,
qui est le Paris Volet maintenant.
Qui est le Paris Volet, exactement. Et puis nous, dans tout ça, c'est 600 licenciés, le rugby, c'est à peu près 230 ou 240 enfants. De 3 ans, donc aujourd'hui le baby rugby commence à 3 ans. Ça commence à 3 ans.
Ah bah oui, les parents ils disent.
Jusqu'à 14, donc l'école de rugby c'est de 3 à 14, donc c'est à peu près 230-240 enfants. Et puis après, des équipes de compétition en cadet et junior où on joue sur le plan national. On a des équipes qui jouent dans des compétitions nationales et régionales en cadet et en junior. Et en senior, donc notre équipe 1 joue en Fédéral 1 aujourd'hui. On a une équipe espoir qui joue aussi tous les dimanches, une équipe réserve, on a 3 équipes seniors et bien sûr une équipe féminine qui joue aussi en Fédéral 2, qui depuis 4-5 ans qu'elle a été recréée continue de progresser tous les ans. Et c'est aussi un enjeu majeur du club, sa féminisation. Que ce soit chez les adultes, mais surtout chez les enfants. À l'école de rugby, on essaye de faire un maximum pour que des jeunes filles viennent adhérer au club et adhèrent au rugby. C'est aussi un des enjeux majeurs, mais je pourrais passer sur le plan sportif la parole à Elio. Et puis pour finir, on a un enjeu citoyen et sociétal que l'on mène depuis 2-3 ans au sein du club, avec des missions... qui ne sont pas notre cœur de métier, mais qui sont des missions auxquelles je suis attaché et auxquelles aujourd'hui le club est attaché, c'est-à-dire on participe à des maraudes, on participe à des, entre guillemets, nettoyer la nature, on emmène les enfants dans les bois ou autour de notre stade pour nettoyer et pour faire œuvre, et on leur explique pourquoi on fait ça, on leur explique quelle est la raison de ces missions-là. On a une mission éco-responsable, une mission citoyenne, et le club doit pouvoir progresser. On est sur zéro plastique aujourd'hui dans le club. Les enfants ont des gourdes. Les bouteilles d'eau ont été remplacées par des bouteilles d'eau en Tetra Pak en carton. Enfin voilà, on a des vraies missions au club qui nous tiennent à cœur. et qui nous permettent aussi de faire autre chose que du rugby, mais qui sont essentiels dans le comportement des enfants de demain, qui doivent avoir demain.
Alors ça tombe bien, c'est une question que je voulais poser. Est-ce que il y a une philosophie PUC? Est-ce que
alors la philosophie
on
PUC, c'est
on
la
l'est toute sa vie,
c'est
hein,
la philosophie estudiantine que l'on a depuis la création 1906, le club, et que l'on essaye de se transmettre de génération en génération avec des chansons, évidemment.
Parce que vous avez un symbole.
On a un symbole, le trèfle.
La violette. Hein. Donc j'ai vu que la violette, c'est
l'emblème
de paix.
La violette, la couleur violette était la couleur étudiante du début du siècle dernier, et donc c'est quelque chose qui se transmet aujourd'hui. Nos couleurs, et notamment nos couleurs de tous les maillots, des petits jusqu'aux grands, c'est violet et blanc. C'est une vraie tradition sur laquelle aujourd'hui on ne reniera pas. Donc, même s'il y a des gens qui aimeraient que parfois on ait des couleurs un peu différentes, la couleur de notre club, c'est violet et blanc, et c'est violet et blanc.
Vous noterez qu'il a un chèche violet également.
Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas la violette, mais enfin, c'est pas bien.
Si, je peux la trouver. D'accord.
On va la trouver,
en dehors de la formation dont on parlait tout à l'heure, qui est encore une fois notre cœur de métier, on doit, et le nouveau président de la fédération veut que sa fédération soit une fédération à mission, et nous depuis je dirais pas qu'on est en avance, mais depuis 3 ans déjà on fait plein de choses sur des missions qui sont en marge, si je puis dire, de l'aspect sportif, mais qui permettent aux enfants de se construire et de savoir ce qui se passe aussi autour. Après, sur le plan sportif et sur le plan plan de nos
les
valeurs,
fameuses valeurs du sport, il va nous le dire, mais discrétion, modestie, amitié, sincère, et
c'est
puis,
ça.
C'est les couleurs de la violette. C'est le symbole de la violette. Hein.
C'est ça, exactement.
Ouais. C'est aussi ce qu'on essaye de développer dans le jeu, en mêlant à tout ça discipline, respect et puis
pour
plaisir.
Se prendre au sérieux sans être.
Oui, voilà. Pourquoi vous avez des problèmes de discipline, même dans le rugby?
Non. Mais je dirais plus discipline de vie en fait,
c'est-à-dire arriver aux heures, aux
exactement,
entraînements, tout ça,
exactement, voilà. Arriver à l'heure, on dit souvent que le rugby c'est une école de la vie, arriver à l'heure à l'entraînement, se respecter les uns les autres, peu importe d'où on vient, respecter les bénévoles, et puis la notion de plaisir qui est très importante dans le sport en général,
chez nous. C'est ce qu'il faut dire.
Prendre du plaisir à être ensemble, prendre du plaisir à jouer, ça reste un jeu avant tout. C'est ce qu'on essaye de développer sur notre école de rugby. C'est des valeurs qui nous sont chères. L'ensemble de nos éducateurs ont joué au PUC, ont une histoire avec le PUC, et donc c'est les premiers défenseurs de ces valeurs-là, envers les tout petits, et puis même plus tard avec notre équipe senior. Voilà, l'idée c'est vraiment prendre du plaisir à être ensemble, jouer au rugby, se marrer, et puis bien sûr faire de la performance, parce que c'est aussi comme ça qu'on prend du plaisir. C'est il faut pas se leurrer, c'est en gagnant des matchs, en mettant en avant notre club, notre maillot, nos valeurs. Voilà, on est très fiers de ça. Peut-être, je ne veux pas dire plus que les autres,
mais
on est fiers de notre maillot, on est fiers de notre violette, et il faut que ça perdure.
Oui, je voulais rebondir un peu sur l'aspect élite, parce que vous avez une équipe quand même qui est en Fédérale 1, qui est quand même le plus haut niveau amateur. Donc, et quel est le statut? Alors, première question, quel est le statut des joueurs que vous avez, et est-ce que vous êtes obligé d'avoir des partenaires pour maintenir un budget? Parce que
De toute façon, quoi qu'il arrive, on a effectivement quelques partenaires. C'est bien difficile à Paris. On croit toujours que c'est plus facile à Paris, c'est probablement beaucoup plus difficile que dans les régions. Donc on a malgré tout quand même quelques partenaires. En revanche, sur ce qui concerne notre équipe UM Fédérale 1, on est un club là aussi très atypique par rapport à ce qui se passe en Fédérale 1 et dans notre pool notamment, où la quasi-totalité des joueurs sont payés aujourd'hui dans les autres clubs, mais pas chez nous. Chez nous, tous les joueurs touchent des primes de match, bien sûr, mais la même chose pour tout le monde, et l'équité est totale entre les 23 joueurs qui sont sur la feuille de match. Tu joues, tu as quelque chose, tu gagnes, tu as quelque chose en plus. Voilà, pour être très transparent avec vous, il n'y a rien à cacher, mais par contre, on a, en revanche, on n'a aucun joueur qui a un fixe mensuel, ce qui existe dans la quasi-totalité des autres clubs de Fédéral 1. Ouais. Donc, et ben voilà, on essaye de se battre avec, on vient d'en parler, avec, avec les valeurs. Alors les valeurs, parfois, on galvaude un peu le mot, mais en tout cas, avec ce que le PUC sait transmettre, oui, avec ce que le PUC sait, sait véhiculer comme, comme plaisir, que ce soit sur le terrain, mais aussi à côté. Sur, sur la troisième mi-temps entre guillemets, mais sur tout ce qu'on
non,
peut apporter à côté.
La troisième mi-temps, c'est important de se voir pour fédérer.
Il ne s'agit
pour,
pas de simplement dire on va boire, mais c'est de se retrouver
bien
après
sûr,
les matchs, c'est de passer des bons moments ensemble. Et ça, c'est valable pour les joueurs, mais c'est valable aussi pour tous nos éducateurs et pour tous nos bénévoles aussi, parce qu'on a beaucoup de bénévoles dans le club qui participent tous les week-ends. Au suivi des équipes, au suivi des enfants, au suivi des adultes, qui nous aident, qui aident le club au quotidien et qui donnent le temps qu'ils peuvent donner. Mais c'est un rouage essentiel, essentiel de nos clubs et du nôtre évidemment. Et à côté de ça, bah voilà, nos joueurs, ils réussissent à trouver encore quelque chose dans ce club-là, sans, sans avoir besoin d'être, d'être payé tous les mois. Voilà, voilà ce que je peux répondre à cette question, si tu veux ajouter quelque
ouais,
chose.
Je, j'irai même plus loin. En fait, c'est important pour nous d'avoir ce fonctionnement-là. On est en Fédéral 1, c'est la plus haute division amateur, et le mot amateur prend son sens. En fait, on est du coup, comme Jérôme vous le disait, le seul club aujourd'hui à ne pas salarier nos joueurs. Ça veut aussi dire que l'ensemble de nos joueurs sont plus réactifs. Et en fait on est du coup un club qui propose une offre de pratique pour des étudiants, pour des jeunes salariés, pour des joueurs qui ont fait un choix de carrière professionnelle mais qui veulent continuer à évoluer à leur niveau sans nécessairement devoir tout abandonner pour jouer au rugby et à, du coup redescendre et aller jouer dans des divisions inférieures. Donc c'est important pour nous d'avoir ça, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qui est avoué et assumé, et aujourd'hui on se bat avec ça et on défend cette valeur là et le plaisir d'être ensemble quoi.
Et c'est les mêmes valeurs également pour les autres clubs du PUC, les autres sections sportives, et souvent vous avez des relations entre vous, vous allez voir le volley par exemple,
il y a
le rugby,
il y a certaines sections avec lesquelles on est en contact.
Oui,
après,
après,
vous savez, le PUC est très éclaté malgré tout sur le sol parisien intramuros. Et nos rencontres à Charletti où on a nos bureaux sont peu fréquentes. Alors oui, il y a le volet qui joue à Charletti.
Mais qui était venu d'ailleurs.
Ça m'est arrivé d'aller voir des
saisons,
matchs à Charletti plusieurs fois. Le tennis est aussi sur place, une partie du foot. Mais il y a beaucoup de sections comme par exemple le hand ou le basket. Ça ne joue jamais à Charletti.
Alors, vous jouez où justement
En ce qui nous concerne, on a deux sites sportifs. Donc on a nos bureaux administratifs à Charletti. Et deux sites sportifs, un site à la cité universitaire, dans la cité universitaire,
d'accord,
le stade ouest, ce qu'on appelle.
Ça, c'est pour garder les origines universitaires.
Alors voilà, ça c'est, c'est le stade ouest qui est dans la cité universitaire, qui est à côté du parc Montsouris, et sur lequel s'entraînent majoritairement tous nos enfants, donc toute l'école de rugby et une partie des jeunes, il y a les cadets et les filles. Et l'autre stade un peu mythique aussi sur lequel on s'entraîne et surtout où on joue les week-ends, puisque c'est un site, bon après il faut être classifié selon la fédération pour pouvoir jouer des matchs en Fédéral 1, qui s'appelle le stade de la Cipale, qui est le Vélodrome Jacques Anquetil.
C'est là qu'il a eu le Tour de France avant.
Exactement, c'est pour ça que je vous disais il est mythique, c'est que non seulement il a accueilli le Tour de France dans les années 70, mais il a été aussi les JO en 1900 et 1906, je crois, de mémoire, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, ce sont des structures Eiffel. C'est un très vieux site que la maire de Paris souhaite rénover, d'ailleurs, dans les prochaines années. Et on espère que ce sera fait. Alors, le vélodrome lui-même tourne encore. Il y a encore du
des
vélo
qui
viennent tourner. Et au milieu, on a notre terrain de rugby qui a été refait il y a quelques années. et qui nous permet de jouer tous nos matchs.
Mais vous êtes en complément avec le rugby à 13 qui était venu aussi. Ils étaient venus, Paris Charenton, ils jouent, on les a vus.
Oui, c'est vrai qu'ils
jouent aussi sur leur stade. C'est leur stade.
Ils s'entraînent. Non, maintenant ils jouent à Pershing, principalement. En fait, aujourd'hui, il y a le vélo et nous qui utilisons de façon prédominante la Cipale. Et Charenton 13 a encore des créneaux pour leurs enfants le mercredi. Et sinon, leur match, ils les jouent à Pershing ou à la Cipale si nous, on n'y est pas. Enfin, voilà, c'est... Mais on s'entend assez bien aujourd'hui les différentes associations sur la Cipale. Ouais. Mais c'est un super site. C'est un site magnifique dans un cadre bucolique et très sympa. Et chaque fois que des clubs de province viennent jouer contre nous, ils sont ébahis de voir dans quel cadre on joue. Après, quand on voit les vestiaires et quand on voit autre chose, on déchante assez rapidement. Mais cela dit, sur le cadre bucolique, franchement, c'est vraiment génial.
Et les autres sélections sportives, elles jouent sur divers arrondissements. Ouais. Ça, c'est fou.
C'est éclaté.
Je crois qu'il y a eu le hand du PSG qui était venu ici, qui nous avait dit qu'ils jouaient dans 10 arrondissements parisiens avec leur équipe de jeunes un peu partout. C'est fou. Hein.
C'est possible. Ouais, je ne suis pas étonné. Ouais, ouais. Nous, je vous dis, le basket, le hand, tout ça, ça joue dans des gymnases... éclaté. Ouais.
Jamais les mêmes en plus. Hein.
Là, au plus qu'ils essaient quand même d'avoir toujours les mêmes créneaux, mais en tout cas, on est loin d'avoir une unité à Charlety où tout le monde, où toutes les sections pouvaient se retrouver comme. Mais bon, on refait pas l'histoire comme il y a quelques années. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, à Charlety, très peu de sections, peu de sections y vivent au quotidien.
En tout cas, ça a été aussi le club de Marie-Jo Pérec, de Ostermeyer, Jazzy, donc Roger Blachon, Colette Besson. Donc c'est quand même des noms prestigieux. Hein.
Bah, puis, Roger, puis, ancien président du rugby aussi.
Albert Camus aussi, hein, l'écrivain, Camus, grand passionné de sport. Oui. Ouais. On peut venir encore vous rejoindre, c'est possible.
Bien sûr.
Même si la Coupe du Monde n'est pas finie, les gens qui nous écoutent, ils peuvent encore aller taper.
Bien sûr. Le PUC Rugby, les portes sont toujours ouvertes. Oui. C'est encore une fois, c'est une de nos valeurs. On refuse personne. Tout le monde est le bienvenu et il y a de l'offre de pratique pour tous les niveaux. Et c'est là, c'est ce qui est important chez nous. Donc, un débutant, un confirmé.
On a une offre loisirs avec du rugby à 5 aussi depuis 2-3 ans sur un créneau pour justement soit les parents des enfants qui ont s'entraîner à côté, soit des gens qui n'ont jamais joué, qui veulent jouer au rugby, toucher le ballon, mais comme il n'y a pas de plaquage, il n'y a pas de mêlée, tout ça, c'est quelque chose de plus simple au niveau de l'accès et surtout on risque un peu moins de grosses blessures, éventuellement, si on parle de blessures. Mais voilà, on a une offre loisirs, on a toutes les offres aujourd'hui qui permettent d'accueillir les enfants et les grands.
Avec des différents prix au niveau de la cotisation, la licence.
Bien sûr,
ça va de combien? Parce que je sais que c'est des questions bateau, mais c'est souvent très important pour les parents.
Les cotisations, elles vont de 150 à 400. Voilà,
sur l'année,
en fonction des âges et des catégories. Mais on trouve de tout et tout le monde est ravi d'être chez nous.
Et on fait beaucoup avec peu.
Est-ce qu'il y a une tranche d'âge où il manque des effectifs
aujourd'hui? Aujourd'hui il manque des effectifs dans le rugby en général. Après on n'est pas forcément en difficulté sur les jeunes, sur l'école de rugby. Un peu plus, on a un trou sur les catégories moins de 16 ans et moins de 18 ans, sûrement un peu dû au Covid, qui nous a fait un peu de mal.
Ouais, et c'est pas revenu
En fait, quand on a un trou sur une génération, en général, il reste et on essaye de le combler, mais bon, ça peut vite être difficile. Et on cherche des féminines seniors. Voilà, pour renforcer le collectif. C'est une équipe pareil, n'importe quel niveau. Une fille qui a envie de venir essayer la pratique, elle sera la bienvenue et je pense que nos féminines seniors l'accueilleront à bras ouverts.
Oui, et puis bon, l'image change aussi hein, sur les filles qui font le rugby. On l'a vu à travers les différents matchs. Il y a un regard aussi un petit peu différent maintenant.
Bien sûr, le rugby se développe dans tous les sens et la féminisation de la pratique est un axe important qui est déjà bien avancé, il faut le dire. Malgré tout, il y a une volonté que que ce sport ne soit pas un sport d'homme, c'est un sport. Et donc n'importe qui peut le pratiquer, peu importe son âge et son genre.
Quels sont vos rapports avec le Stade français, Pierre Hessling? C'est des concurrents, c'est des amis, c'est des...
Ah non, c'est des amis.
Oui, oui, oui. Bah, je sais.
C'est vraiment des amis. au-delà de Julien, ouais, ouais, de ouais. Julien Combe, dont vous parliez tout à l'heure, qui est effectivement un copain. Aujourd'hui, le club, c'est y a un vrai partenariat qui a été construit avec avec le club depuis plusieurs années sur nos passerelles qui peuvent exister entre nos différentes équipes de compétition.
Donc vous donnez des joueurs de
exactement ouais. quand ils ont certains joueurs qui peuvent revenir chez nous, ils sont aiguillés pour revenir chez nous. Quand on a des jeunes qui ont besoin de ou qui veulent essayer de jouer à un niveau supérieur, et ben ils sont aiguillés vers le Stade français et naturellement on essaye de faire en sorte qu'ils aillent là-bas. Nos relations avec le directeur général, avec Thomas Lombard et avec le président du Stade français sont vraiment très bonnes. Franchement, on a de ce côté-là, on a plus du tout les problèmes qui auraient pu exister il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, les tensions sont totalement apaisées et on travaille. Main dans la main, c'est peut-être exagéré, mais...
En totale harmonie.
Harmonie, exactement.
Pour finir, vous allez accompagner des actions de Paris 2024. Vous parliez justement des opérations auxquelles vous participez. Est-ce que vous allez aussi accompagner les différentes actions
pour 2024, oui. pour les JO?
Oui.
Écoutez, pour le moment,
parce que le plus que c'est, hein, pour le moment, c'est l'omnisport, hein,
pour le moment, ouais. Oui. Alors sur l'omnisport, il y a des choses. Alors, il faudrait. On est un peu aux prémices. Enfin, même si ça va venir vite, mais le président de l'omnisport avec lequel je discute souvent et que je vois souvent. Ils sont sur plusieurs projets, notamment sur l'athlète. Enfin bon, il y a sur les femmes, il y a des choses qui sont en cours. Mais ça, malheureusement, c'est eux qu'il faudrait interroger. Mais je reviendrai volontiers et éventuellement, je viendrai avec lui.
Très bien. Allez, la deuxième pause musicale avant donc la partie foot, c'est Frank Sinatra, My Way. Hein.
Très bien.
Ah oui,
bien.
Allez, on y va.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was my fill, my share of losing.
And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words.
Voilà, après le ballon ovale, le ballon rond, on retrouve notre ami donc, du quotidien du sport, notre ami Stéphane Desenclos. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, on va saluer Abou aussi, bonsoir Abou.
Bonsoir Philippe.
Voilà, et bonsoir Shenza.
Bonsoir, voilà. Bonsoir.
Alors,
Philippe.
Fidèle à la tradition, on va faire un petit peu le résumé de la semaine. Bah, messieurs, on a été un petit peu trop pessimiste hein, pour nos clubs français en Coupe d'Europe, puisqu'il n'y a pas eu une seule défaite, donc c'est plutôt bon pour l'indice UEFA. En Ligue des Champions, donc Paris Saint-Germain, vainqueur de Dortmund 2-0, et puis Séville-Lens 1-1. Ça vous inspire un commentaire, Stéphane?
Non, bah, ce n'est que non, bah, de PSG Dortmund, rien d'étonnant.
Oui.
C'est
comme on l'avait annoncé. Logique, hein. Ouais. Victor ah, logique.
Bah, c'est Lens, la bien bravo Lensois, qu'on fait un super match.
Ça, c'est plus inattendu.
On les a, ouais, on les a pas vus encore comme ça en Ligue 1, mais c'est quelque chose d'un peu courant, ça, hein, qu'il y ait des comportements complètement différents. Ils ont été survoltés. Il faut dire qu'ils revenaient quand même, je crois, 21 ans après en Ligue des Champions, donc l'enjeu en valait la chandelle. Donc chapeau à eux, parce qu'ils auraient été, ils étaient quand même plus proches de gagner le match que de le perdre, en tout cas.
À bout.
Ouais, Lens qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Ouais. Après, faut quand même se dire que Séville en face est relativement faible, hein, c'est dans les derniers du championnat espagnol, mais c'est quand même une très belle performance pour les Lensois qui prennent un point très important, sachant que derrière t'as Arsenal et le PSV. Mmh. Donc c'est une bonne chose. Après en Ligue des Champions, le PSG, bah, pour moi c'est pas une surprise, hein.
Non, et puis, on parle, la victoire elle est logique sur le
ouais,
match,
on parle,
hein,
de, on parle de groupe de la mort. Ouais, ouais. Ok, Dortmund c'est pas, en tout cas si la mort qui vient toquer à ma porte c'est Dortmund, ça va, j'ai encore longtemps à vivre. Ensuite Marseille par contre, Marseille Ajax,
on va en parler, ça, on ça, va c'est, parler de la Ligue
ça,
Europa,
ça c'est ouais, une ouais. très belle surprise, Marseille Ajax,
on va en parler Mais d'abord sur la Ligue des Champions, Shenza, donc oui. Paris qui gagne, Lens qui va accrocher le nul à Séville finalement.
Ben, concernant Paris, moi, j'étais pas vraiment rassuré parce oui, que ben, y a vraiment.
T'es rassuré maintenant?
Bon, même là, je suis même pas encore rassuré parce que je pense qu'il y a des failles encore dans cette équipe. Comme j'avais dit, le rouleau compresseur n'est pas encore mis en marche, mais avec le temps, si on donne du temps à Luis Enrique, il risque de faire de grandes choses. Mais pas cette année, il faudra attendre l'année d'après, ensuite dans 2 ans, voilà. Mais il faut vraiment qu'ils mettent un rouleau vraiment compressant en marche et tout. Et moi, ce que je repense un peu à Paris, c'était dans l'attitude défensive. À un moment donné, j'ai vu que vraiment des mecs étaient un peu fébriles face à Dortmund. Cette Dortmund, c'est pas le grand Dortmund qui avait 2 ans, il n'y a plus Haaland. Et déjà, il y a pas mal de joueurs qui sont partis. Oui, bien sûr, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Mais c'est pourquoi je constate que l'équipe de Paris n'est pas, pour moi, n'est pas au top. Parce que avant Dortmund, le match d'avant, vraiment, c'était une catastrophe. Donc ça montre que vraiment, je pense que Paris Saint-Germain cette année, le PSG, ils sont trop irréguliers, c'est-à-dire ils peuvent faire une bonne performance, après ils peuvent enchaîner une contre-performance. Mais vraiment, quand on décide d'aller gagner, je sais pas, une compétition comme la Ligue des Champions, il faut être régulier dans toute sa forme. C'est-à-dire même dans les mauvais moments, il faut créer des automatismes, c'est ce que tu vois, c'est ce qui manque un peu à Paris. Je suis un supporter de Paris, mais là, vraiment, je ne suis pas rassuré pour la suite. Concernant Lens, ça va. Je me dis que vraiment, moi, j'étais vraiment, je savais que Frank Hess, il pouvait vraiment mettre cette équipe de Séville en difficulté, parce que c'est pas le grand Séville non plus. Et je pense que l'équipe de Lens, vraiment, elle ne me surprend pas. Je pense que Frank Hess, il peut sortir de ce groupe si vraiment il y met tous les moyens possibles.
Non. Mais non, match nul, d'accord. Mais match après, nul contre Lens. Contre Séville, pourquoi pas? On est franchouillard, on est français, on aime la France, on aime Lens. Ok, pourquoi pas? Mais de là à sortir de ce groupe, non. C'est une très belle performance pour les Lensois. Bravo à eux, félicitations aux Lensois. Ils feront pas zéro point comme a pu le faire l'OM à son époque. Mais de là à sortir du groupe, non, moi j'y crois pas.
LNG, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Ça va? Bon, alors on remonte naturellement l'actu de la semaine. Hein. On va commencer par la Ligue des Champions, on l'a dit. Pas de défaite. Pareil en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. Sur les deux résultats de Ligue des Champions, Paris donc fidèle au rendez-vous. Et Lens qui va faire nul à Séville.
C'est une très bonne performance pour les clubs français. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et après, je pense qu'on peut y croire. Hein. À partir du moment où Marseille sont partis faire un match nul à l'Ajax, Lens, ils font match nul à Séville. Je pense que tout est possible maintenant dans les deux groupes. Hein. Voilà. Mais après, moi, j'y croyais pas vraiment pour Lens
vu de leur début
de saison. Mais on ne sait pas, on verra bien.
On verra pour la suite des matchs. Alors, Stéphane, effectivement, deux victoires et deux défaites, deux victoires et deux nuls également pour la Ligue Europa et l'Europa League Conférence, hein, aucune défaite. Donc, Rennes qui bat IFA 3-0 et Lille qui bat Ljubljana 2-0. Et puis, nul donc, entre l'Union Saint-Gilloise et Toulouse, un partout. Et puis, Abou et puis El Hadji en parlait, nul de Marseille à Amsterdam, trois partout. Donc, pas de défaite. Ouais.
Bah pour moi, j'avoue que pour moi, ça a été une déception parce que si on m'avait demandé, d'ailleurs, sur d'autres réseaux, on me l'a demandé, et j'avais plutôt opté pour une victoire de l'OM parce que
la crise,
c'est quand même au fond du trou, quoi.
Ouais.
Et l'OM fait quand même une entame de match cataclysmique. Et il s'en sort parce que l'Ajax n'est vraiment pas. Est vraiment pas fort, quoi, et sur des exploits personnels. Maintenant, ils font 3-3. Je veux dire, bon, moi j'avais visé sur une. On m'avait demandé sur les 4 prochains matchs là, de l'OM, j'avais visé une victoire, hein, j'avais prédit une victoire à Amsterdam, une défaite au Parc, un nul à Monaco et une défaite à domicile contre Brighton. Donc pour l'instant, je suis un peu déçu parce que quoi, la défaite au Parc, c'était bon logique, mais bon, pour revenir à l'Europa League, je suis un peu déçu quand même, moi, de ce résultat. D'ailleurs, dans les faits, c'est vrai qu'on n'était pas très loin quand même non plus de la victoire, mais on peut retenir quand même que quand tu prends trois buts dans une compétition comme la Coupe d'Europe, c'est quand même dur de gagner des matchs, quoi. Donc pour moi, c'était là-dessus que l'OM pouvait espérer se qualifier, et j'ai bien peur que là, du coup, ça soit cramé, quoi, qu'il passe pas, quoi. Et c'est le seul résultat vraiment un peu bon, je trouve, de ces matchs de Coupe d'Europe, en fait, c'est le...
Bon, c'est les premiers, hein, faut attendre. Hein. Il reste
Juste tournée. Pour répondre à Stéphane avant qu'il continue, si l'Ajax est au fond du trou, l'OM est dans les abysses, hein, Stéphane. On parle d'un club quand même dont on est parti menacer le président, un club dont on a le coach, il a fait que 4-5 matchs, il a été viré. Si l'Ajax est au fond du trou, l'Olympique de Marseille n'existe plus. Et je pense que Stéphane, et c'est d'ailleurs très très bien pour lui, je pense que c'est le seul journaliste au monde, et je ne parle pas de la France, au monde, qui voyait une victoire de l'Olympique de Marseille. Tout le monde voyait l'OM se faire ratatiner, et quand tu vois le début du match, 1-0 directement, alors là tu te dis les mecs ils vont pas exister, 2-0 alors là c'est fini, les gars ils sont vraiment au fond du fond de la crise, Pablo Longoria il va démissionner le lendemain, et derrière tu vas chercher
pas tous en même temps, vas-y,
et derrière quand tu vas chercher un truc,
t'es un peu gentil avec moi ou je sais pas quoi en disant que je suis le seul, je pense pas que je suis le seul parce
si.
Que il y en a, je pense, beaucoup aussi qui voyaient ça. Je veux dire, bon, le président, c'est comme si tu disais, par exemple, que la prestation des Marseillais au Parc dimanche était liée à ce qui s'est passé avec le président. Je partage absolument pas cette opinion. L'OM avait quand même une équipe qui était sur le papier, je pense, supérieure à celle de l'Ajax, qui est au fond du trou.
Excuse-moi de te couper, Stéphane.
Non.
Excuse-moi de te couper, Stéphane.
À la base,
Je peux pas te laisser continuer, Stéphane. Là, franchement, on va dans un trou noir. Je peux pas te laisser continuer. Depuis tout à l'heure, j'essaye de te laisser terminer, mais ça se termine pas. Et honnêtement, non. Tout le monde voyait l'Ajax gagner. Franchement, même dans un trou noir, avec l'équipe que l'Ajax ont, ils sont obligés de battre l'OM. Et moi, match retour, je mets une pièce sur l'Ajax. Ils vont changer de directeur sportif. Il s'est fait limoger là, hier ou ce matin, je m'en rappelle plus. Ils vont changer de coach aussi. Match retour, je suis sûr que l'Ajax vont gagner. Et Marseille, en aucun cas, on aime bien les clubs français, etc. En aucun cas, on voyait Marseille. On ressort les stats encore, on ressort les vieilles stats. Stéphane, toi qui regardes le football depuis plus longtemps que nous, excuse-moi, laisse-moi parler Stéphane, s'il te plaît. Stéphane, laisse-moi parler s'il te plaît. Toi qui regardes le football depuis bien longtemps, tu vois bien, la seule équipe qui est partie s'imposer à l'Ajax, c'était l'Auxerre. C'était Auxerre. La seule équipe qui française qui s'est imposée à l'Ajax, c'était l'Auxerre, et c'était en 1900, je ne sais plus quoi. Ouais. Tu vois, pour te dire. Voilà, et il y en a qui sont passés vraiment, réellement, tu vois. Donc maintenant, dire que tu pensais que Marseille allait gagner à l'Ajax, franchement, Stéphane, t'es vraiment le seul. Vraiment le seul. Ou en tout cas, dans ton monde. Pas ici, en tout cas.
Bon. Je peux te dire, elle a dit que je crois absolument pas du tout, du tout. Je ne parle pas que de foot sur la radio Montpellier FM, et je suis même certain que je crois pas du tout, du tout, du tout que beaucoup de gens, notamment du côté de RMC, des consultants, des qui soient marseillais ou pas marseillais ou des choses comme ça, ne pensaient pas qu'ils pouvaient gagner. Ils l'auraient peut-être pas parié comme ça. Moi, je pense que sincèrement. Je pense que Marseille. D'ailleurs, Marseille aurait dû gagner le match. Quoi.
J'espère que t'as pas parié. J'espère que t'as pas parié, Stéphane. Bon, et j'espère que t'as pas introduit des personnes sur des mauvaises pistes aussi.
Juste une petite chose. Quand Stéphane dit que l'impact mental de ce qui s'est passé avec Longoria, ça compte pas. Je trouve que c'est de sous-estimer ce qui s'est passé quand même. Parce que là, on parle de menace de mort. On parle d'un président à qui on a dit vous avez 4 matchs, toi et ta direction, pour vous casser du club. Sinon, il se passera ce qui doit se passer. On parle d'un entraîneur qui tellement a eu peur, a fait ses bagages et du jour au lendemain a quitté la ville. Forcément, ça impacte les joueurs. Quand t'es joueur de foot, et j'ai envie de te dire, même à un petit niveau, même nous qui avons joué en tout petit niveau, quand on a des trucs extérieurs, on est traumatisé sur le terrain, mais des joueurs professionnels, forcément, quand il y a de telles choses et qu'on sait que votre intégrité physique elle est en danger, forcément, il y a un impact sur le match. C'est pas possible. Alors, autrement.
Ça tombe très bien parce que justement, je voulais faire la transition sur la Ligue 1, sur le match hier, le Classico, donc victoire assez large du Paris Saint-Germain 4-0 devant Marseille. C'est une des raisons du non-match des Marseillais.
Non, moi je ne mettrais pas ça sur. Je pense qu'il y a un problème de. Il y a un problème déjà de coach. Hein,
Pontua
Pontua Bordonado qui part un peu petit bras avec son 5-3-2. Je pense que c'est un match qui était perdu d'avance. Et 5-3-2. Après, dans le match, les Marseillais n'ont pas existé. Quoi. Et ça, par contre, on ne peut pas le mettre sur ce qui s'est passé avec Longoria et tout. Il y a certes un peu de ça, mais on l'a très bien vu. Avec ça, à l'Ajax, il y a quand même eu une réaction. Là, au Parc. Comme il l'a dit, je pense que Gigot, il a très bien résumé ce qui s'est passé au Parc. On est arrivé, on les a trop respectés, on a eu peur. Certains joueurs n'étaient pas au niveau. Rongier notamment, Veretout, Mbemba derrière.
Je pense
Vitinha
devant.
De les
citer. Ils ont tous pas été au niveau. Il y a eu 0 tir cadré.
Ouais, mais il y a des joueurs en dessous.
Ils ont été catastrophiques. Eux tous, catastrophiques.
Il y a des joueurs qui ont été en dessous encore du.
En fait, ça a été une démonstration de force. Moi, j'ai regardé le match hier. Tous les deuxièmes ballons, ils étaient dessus, les Parisiens. Tous les deuxièmes ballons, ils étaient dessus. Ils étaient là, contre-pressing. Ça repartait, ça récupérait le ballon. Il y a eu à peu près 200 passes pour vous et il y en a eu à peu près 900 pour Marseille pour le PSG pardon tu vois et ça
il
a été
est
vraiment
journaliste, hein.
Oui non oui et ça ça a vraiment
il a dit pour vous journaliste rédacteur en chef monsieur journaliste rédacteur en chef monsieur Carlier
voilà je dis pour vous oui il a compris
non j'ai pas compris
non attends
voilà franchement en tout cas franchement ça a été une correction monumentale. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Parc des Princes aussi joyeux et on n'avait pas vu aussi un football aussi beau au Parc des Princes. Ça fait très
d'accord.
longtemps.
Alors on va voir Schenza et après Stéphane. Schenza.
Moi je pense que vraiment Paris Saint-Germain hier ils ont été vraiment ils ont été à la hauteur de l'attente des Parisiens et tout ça parce qu'il y a longtemps que cette équipe a été pointée du doigt. Donc face vraiment là ils ont fait deux bons matchs, celui de Dortmund et celui de Marseille, même s'il n'y avait pas vraiment une opposition en face, parce que le match vraiment pour moi c'était tellement facile que à tout moment Paris vraiment ils pouvaient même alourdir le score et tout ça. Et ben, je pense que vraiment Luis Enrique là, la mayonnaise est en train de prendre, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner du temps parce qu'à Paris, on a tendance vraiment à aller trop vite. On a tendance à mettre la charrue avant les bœufs, mais il ne faudrait pas le faire. Sinon, ça sera encore du fiasco. Il faut donner du temps à cet entraîneur et on verra vraiment à la suite parce que là, je ne vais pas trop me projeter concernant cette équipe. Mais je pense que le PSG est une bonne voie pour l'instant.
Alors Stéphane, et après on va commenter les autres résultats de la journée.
Pareil, les autres n'ont pas le droit de renchérir, donc je pense que je viens d'entendre quand même tout et son contraire, c'est-à-dire que la performance de l'Ajax, c'est à cause de ce qui se passe en interne. Par contre, l'humiliation du Parc hier, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en interne. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 3 jours, les joueurs, ils ont complètement tout évacué. Donc les deux résultats n'ont rien à voir, n'ont peut-être un petit peu, mais très peu à voir avec ce qui se passe, si ce n'est qu'il n'y a pas de coach sur le terrain quasiment, parce qu'à partir comme le rappelait un ami journaliste cet après-midi, Pancho Varnado, il est quand même inscrit à l'OM, il était quand même inscrit en tant que traducteur, hein, il est deuxième adjoint ou troisième adjoint à la base, en tant que traducteur de Marcelino. Pour ce qui concerne Marcelino, je vais revenir sur son départ. Contrairement à Longoria, c'était de toute façon, il a simplement devancé les choses, parce que tout le monde voulait qu'il parte, effectivement. Je ne partage pas particulièrement cet avis, hein, mais les supporters, en fait, voulaient qu'il parte, parce qu'il n'arrivait pas à mettre en place quoi que ce soit pour son équipe. Donc, j'ajoute quand même que c'est quand même la première défaite. Non, il y a eu, à part Panathinaikos, c'est la première défaite de l'OM depuis ces deux derniers mois quasiment, à part donc, le Panathinaikos, effectivement. Donc, je veux dire, l'OM était en mesure, avait les joueurs, aurait dû avoir les joueurs en tout cas pour faire le minimum. Maintenant, effectivement, sans du tout parler de ce qui s'est passé avec Longoria, il faut simplement analyser un peu plus tranquillement l'effectif de l'Olympique de Marseille, l'équipe qu'ils ont. Moi, je l'ai déjà écrit, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. S'il y en a, je sais qui m'écoutent là autour de toi, Philippe, il y en a pas mal qui pensent comme moi, je pense en tout cas pour ce joueur, qui pense que Valentin Rongier est un joueur du niveau de l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire top 3 Ligue 1. Et d'autres encore que c'était, j'entends bon, Unai, effectivement, il a fait une super Coupe du Monde, quelqu'un nous a inventé des supporters de l'OM avant qu'il signe, qu'avant de faire la Coupe du Monde, il avait été toujours très 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 bon avec Angers, qui est descendu quand même, je le rappelle, en Ligue 2. Sarr, il était en Ligue 2, en Championship, il jouait pas là, bien sûr, il est blessé, mais il était en Championship. C'est effectivement, il faut aussi revenir à raison. Maintenant, je maintiens quand même, ça n'empêche pas que je maintiens qu'il devait battre l'Ajax, qui, je crois, le match a été arrêté, il perdait 3-0, je crois, ce week-end, quand le match a été arrêté. Et je pense que c'est finalement la faiblesse un peu de l'Ajax qui va être l'arbre qui cache la forêt, quoi. D'accord. Et que t'as pas le droit, quoi. T'as pas le droit de faire un match comme t'as fait hier. Même si moi personnellement, en tant que supporter du PSG, ça va gâcher le match, quoi. Ça va gâcher le match, quoi. On n'a pas vu un bon match, quoi. Je trouve qu'on n'a pas vu un bon match parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, quoi. C'est tout. Donc, c'est un peu inquiétant. Si Lille gagne demain, je crois que l'OM sera 7e au classement.
Ouais, alors, à 3 points du premier. Ouais. Mais c'est pas grave, monsieur. Mais j'ai l'impression que monsieur ouais. Desenclos survole les matchs, il les regarde pas vraiment. Mais on t'en veut pas, Stéphane. On sait que c'est un peu compliqué de là où t'es. Donc, bon. on t'en veut pas.
Justement, pour revenir sur les résultats de la 6e, parce que le temps nous presse, Nice est allé gagner à Monaco 1-0, Brest qui bat Lyon 1-0, match avec des buts à Nantes où Nantes a battu Lorient 5-3, victoire de Lens, première victoire donc devant Toulouse 2-1, et puis Strasbourg qui va gagner à Metz 1-0, donc Brest en tête avec 13 points, devant Nice 12 points et justement le PSG Monaco 11 points, Marseille 6e à égalité avec Strasbourg et le Havre 10 points, par contre Lens ferme la marche avec donc 16e avec 4 points, 17e Lyon 2 points et 18e Clermont 1 point. Bon, Brest, c'est un peu comme Lorient l'année dernière, messieurs.
Je trouve que c'est une très belle équipe. Ouais, Brest, c'est une très très belle équipe cette année qui pratique un très très beau football. Après, je pense que comme Lorient, le soufflet va retomber un peu au milieu de la saison, mais c'est une équipe qui sûrement cette année finira top 10 et ça fait plaisir de voir une équipe aussi joueuse en Ligue 1.
Oui, et derrière donc Lens qui gagne enfin sa première victoire, mais Lyon qui perd à Brest, c'est toujours aussi compliqué pour Lyon.
Ouais, pour Lyon, c'est franchement grosso avec des choix forts. Il arrive avec des choix forts quand même pour mettre Cherki sur le banc. Quand même, fallait y aller. Et franchement, on a vu que ça a pas payé puisqu'il y a eu zéro tir cadré de tout le match. Ça a été une catastrophe. Du coup, je sais pas. Après maintenant, là, comme c'est un début, on sait pas où est-ce qu'il veut mener l'équipe, mais faut voir. Mais
bon,
c'est, voilà.
Ligue 2.
Le problème de Lyon, c'est les joueurs quand même.
Oui, oui, bien sûr.
C'est les joueurs quand même. Il n'y a pas de joueurs. En tout cas, dans l'équipe qui a joué à Brest, avec Lovren et Caleta-Sarr qui sont blessés, en considérant que ce sont des bons joueurs, eux, en dehors de la casette, il n'y a pas de joueurs. Quoi, je veux dire.
Ouais, mais...
Et puis ceux qui étaient bons à une époque.
Ouais, mais Cherki, excuse-moi, mais Cherki, tu es obligé de le mettre.
Comme Tolisso, Cacré, quoi. Je veux dire, moi, je viens là. Je l'ai vu, le match, il n'y a pas eu trop de coupures à bout, donc j'ai pu le voir à peu près normalement. Mais c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, mais au niveau des joueurs, Grosso, Platini,
Platini,
Zidane, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, à mon avis. C'est très compliqué, quoi. Je veux dire,
on ne sait pas c'est quel match que tu as vu, Stéphane, mais c'est ce que je dis. C'était pas avec nous, c'était dans un autre monde, mais c'est pas grave.
La Ligue 2, donc le Paris FC battu 2-1, Laval qui gagne devant Guingamp 2-1 et Saint-Etienne qui va gagner à Concarneau 1-0. Donc Stéphane, Laval toujours en tête, 16 points devant Grenoble et puis Amiens. Et le Paris FC, par contre, pas bien placé. Hein. Paris FC 16e avec Dunkerque et Valenciennes, 6 points.
Je pense que ça va mal se passer pour le Paris FC.
Ouais.
Ça va très mal se passer pour le Paris FC, pour son coach dans les prochaines semaines. Maintenant, c'est sûr que bon, de toute façon, là par contre, c'est super difficile de parler de la Ligue 2. C'est vraiment un championnat pas autant que le national, mais c'est un championnat très ouvert où tout peut se passer, où tout est complètement fou entre les clubs au gabarit Ligue 1 qui n'arrivent pas à se mettre vraiment dans le jeu de Ligue 2. Entre les gens, c'est très très compliqué. Et puis Laval, on en avait parlé la semaine dernière.
C'est ça, justement.
Hein. Laval. C'est l'équipe de Ligue 2, je pense, je sais pas exactement tout le monde, mais je pense que je connais pas tous les clubs, mais je pense que ça doit être le club de Ligue 2 qui a peut-être l'entraîneur depuis le plus longtemps, quoi, qui doit avoir l'entraîneur, c'est pas énorme, hein, ça doit peut-être être 3 ans ou un truc comme ça, mais donc où les joueurs se connaissent le plus et tout, et ça en Ligue 2, bon, même en Ligue 1, partout, ça porte ses fruits, donc effectivement, ce qui était une surprise au début, bah ça va le devenir de moins en moins, c'est solide, il n'y a pas de grand nom et tout, mais par contre c'est solide et tout, donc c'est vrai que ça va être Laval, ça sera peut-être pas que une étoile filante de début de saison, quoi. Ça risque de rester au moins dans le top 5 jusqu'à là. Alors, les déceptions, oui. Si tu en as parlé, pour moi, en tout cas qui suit la Ligue 2, la déception, c'est Bastia par exemple qui est très mal classé, ça c'est une grosse déception. Et puis bon, par contre, je crois pas plus que ça, Saint-Étienne qui va encore qui alterne, qui fait du yo-yo entre les bons, les mauvais résultats, mais c'est pareil, j'ai l'impression, assez de fond de jeu et de projets solides pour ce club, quoi.
Alors, on va très brièvement donc rappeler les résultats nationaux et après il y a une question que notre ami François va poser. En national, on va rappeler que le Red Star a battu Avranches 3-0 et que Versailles a été battu par Villefranche en Beaujolais 1-0. Le Red Star survole quand même donc la nationale, donc le championnat de national pour l'instant avec 18 points. Par contre, c'est pas très bien pour Versailles et Sochaux qui sont 14e à égalité, mais il y a deux matchs en moins quand même pour Sochaux. Et puis le Paris Atlético, ça va nous intéresser. Ils ont gagné ils ont gagné leur match contre Saint-Privé Saint-Hilaire 2-1. Ils sont pour l'instant 3e avec 10 points, pas très loin en tout cas, juste à un point de La Roche-sur-Yon et de Libourne qui sont en tête avec 11 points. François, une question à Stéphane assez rapidement parce que le temps nous presse.
Par rapport à Concarneau, qui est le petit Poussey, qui est le seul club SDF.
Avant-dernier pour l'instant.
Mais le seul club SDF, donc je trouve qu'ils se débrouillent pas mal.
Club de Jean-Paul Olivier,
Contre Saint-Etienne, je pense qu'ils sont pas mal débrouillés. Et puis on leur souhaite bonne continuation.
Voilà, puis je voulais donner un petit résultat de basket aussi pour dire que donc, le Paris Basket s'est imposé 80 à 65 à Saint-Quentin. Ils sont confirmés en tout cas, donc leur bon début de saison et leur partenariat avec Adidas. Nanterre a battu le Portel 109 à 88 et Bourg-en-Bresse donc s'est imposé 94 à 73 devant Boulogne-le-Valois. Ça fait 5 équipes en tête dont le Paris Basket. Nanterre est 11e et le Valois, donc Boulogne, 14e avec 0 points. Il n'y avait pas de championnat féminin. Juste un petit mot, elle agit sur le championnat étranger, il y a des temps forts.
Le Real Madrid sont dans un petit temps faible, perdu dans un derby contre l'Atlético, bon, avec un match très moyen quand même. Après, de l'autre côté, on a eu le Barça qui s'est imposé face au Celta Vigo de justesse parce qu'ils perdaient 2-0. Ils sont revenus dans le Money Time avec un doublé de Lewandowski et Cancelo pour fermer la boucle. Et ensuite, bah voilà, le Barça qui reste, bah là, qui reste premier pour l'instant, qui ont pris la première place du championnat. Et on passe côté Premier League. Manchester City qui
toujours en tête, 18 points devant Liverpool, 16 points.
Un sans faute. Ouais. Je pense que cette année, on va avoir une bataille de loin Liverpool-Manchester City, comme on a eu l'habitude de le voir ces dernières années.
Mm-hmm. Et Tottenham qui confirme son bon
et
début
puis,
de saison.
Ouais, voilà.
Tottenham qui confirme son bon début de saison contre Arsenal, 2-2, avec un match animé et un match très intensif. Franchement, mm-hmm. c'était un très beau match à voir. Et voilà, Tottenham qui sont 4e, Brighton 3e qui assure quand même avec 15 points, parce qu'ils sont quand même 3e. Brighton, c'est pas mal du tout. Et voilà pour le championnat anglais.
D'accord, très bien. Stéphane, merci en tout cas pour cette demi-heure de foot très enflammée. Mais c'est ça, hein, ou c'est le foot, hein. Stéphane,
bonne soirée à vous. Hein. Oui. Merci à vous. Et puis bonne soirée à vous. Et puis. Je demandais une petite question à Algi, t'es pas trop inquiet pour le Real là cette saison?
Non, clairement pas, non, je suis pas inquiet du tout.
En Liga.
En Liga?
Non, je parle de la Liga là déjà.
Oui, de la Liga, c'est ce que je te dis. Non, de la Liga, non, je suis pas inquiet, hein, franchement. Nous on attend Mbappé l'année prochaine au Real, hein. Ils attendent Mbappé l'année prochaine, t'inquiète.
On verra ça, on aura
le prochain.
Non, mais
l'année prochaine,
Mbappé, le Real, c'est un grand club. Mbappé, le Real, c'est un grand club.
On a quelques blessés, Vinicius qui est pas là, qui revient là contre Las Palmas. Voilà, on a Thibaut Courtois, franchement, on se rend compte que derrière, Kepa, c'est une grosse douille à l'arrière, mais voilà.
Mais Thibaut Courtois, il va pas jouer cette année.
Il va pas jouer, oui, vers les débuts, il va pas jouer, il va arriver vers les échéances plus tard, mais on a Vini qui revient.
On
ça
aura maintes fois l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Merci Stéphane.
Comme j'ai retenu qu'il y aura Mbappé l'année prochaine.
Rendez-vous. On aura l'occasion d'en reparler On aura l'occasion d'en reparler en tout cas tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. Merci Stéphane.
Allez, bonne soirée.
À très bientôt.
Bonne soirée.
Voilà. Allez, juste une petite minute de fin. Vous voyez, un petit mot. Donc
merci de votre invitation. Hein, merci de nous avoir permis de venir parler du rugby dans sa globalité, de parler du PUC, d'écouter ces échanges sur le foot. C'était
foot,
hein. Assez enrichissant et rare, donc
après,
très bien.
On a des timings à respecter, donc
pas de souci.
Voilà.
Et donc encore merci de nous faire la promotion du rugby.
Rien de plus. Merci beaucoup de nous avoir invités. C'était un plaisir.
Bon, merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine.
La semaine prochaine.
Enflammé. Merci Shenza. Merci Eladji. François Bourpo.
Merci.
On se retrouve dans 15 jours.
15 jours.
Voilà. Et puis on finit, Joe Dassin, l'été indien, pour marquer la fin de l'été. Puis l'arrivée de l'automne qui est beau pour l'instant. Bonne soirée à toutes et à tous. Et rendez-vous la semaine prochaine.
Merci. Salut.
Bonne soirée. Salut. Bonne soirée.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens.
Mon Paris est fait.